nous recevons une actrice, une comédienne, une chanteuse, celle qui nous a donné la fièvre avec 37.2, une blonde incandescente qui nous venge toutes, une femme passionnée qui incarne la joie de vivre ce midi, mademoiselle Clémentine Célarier, notre invitée.
11h30, Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Bonjour Clémentine Célarier.
Salade de fruits, joli. Tu plais à mon père.
Alors Clémentine Célarier, vous avez toujours la banane, la patate là?
Oh toujours, là c'est tôt, hein.
Mais ah ça oui va, je m'en midi, c'est tôt pour vous?
Oui, c'est tôt.
Vous avez été virée de votre collège en Afrique quand vous aviez 12 ans et vous vous êtes retrouvée pensionnaire en France à Saint-Germain-en-Laye. Le choc des cultures, ça a dû être rude quand même.
Ben oui, c'est comme ça. C'est un monsieur, un mec, j'avais 12 ans, j'étais en 6e, j'étais un petit peu en retard.
Vous avez passé toute votre enfance en Afrique?
Oui, je suis née au Sénégal, à Dakar, et c'était pour moi très important, je crois. Enfin, quand on me demande des choses, de secrets, de je sais pas quoi, d'énergie, ben je pense à l'Afrique. Enfin, mes parents, déjà, à l'Afrique. Et puis, il m'a envoyé.
Vous avez fait une grosse bêtise? Qu'est-ce que vous avez fait?
Non, j'ai pas fait de bêtise. Non, c'est un mec qui me draguait, qui m'emmerdait. Je lui ai balancé une poubelle en fer. Voilà, je me suis défendu.
Sur la tête,
faut
sur se la
défendre.
Tête.
Pas sur la tête, dans les jambes et tout ça. Donc je me suis viré du lycée. il est mort. Il est mort, je l'ai tué. Non. Quelle horreur. Non, merci. Oh, bah, là, ça aurait été horrible.
Oui,
j'aurais été en prison, vous rendez compte.
Ouais, et puis on en reparlerait.
J'aurais pas pu être comédienne. Et mon Dieu, et venir vous voir.
Vos parents vous envoient quand même pour vous punir quand même.
Non, pas du tout. Ça va pas. Mais pour me punir de quoi? C'est lui qui était coupable, pas moi. Non.
Oui, mais quand même, vous vous retrouvez du coup en France.
Non. Mais ils m'ont pas puni, c'est parce que j'étais virée du lycée et que c'était compliqué. Il n'y avait pas d'autres lycées, on était au Gabon. Et donc, ils m'envoient dans une pension pour. Oui. Et là, c'est pas grave, vous savez, il faut s'adapter. Hein. Je veux dire, y a pire. Hein. J'étais chez les sœurs, je trouvais que, il y avait un truc, ça, que Jésus avait l'air chouette. Et c'est vrai en plus. Et puis, c'est vrai que j'ai voulu être bonne sœur à ce moment-là, à un moment donné.
Ah oui, carrément.
Ça m'a passé un peu. De toute façon, je serais tombée amoureuse de tous les curés, etc. Donc, ça aurait été un peu, pas tous, mais je veux dire, certains. Ça, c'était pour faire rire, et voilà. Et puis donc, c'est des expériences super. Après, il y a la solidarité entre les gens, on était toutes les filles qui étaient là. Enfin, c'était chouette, quoi. Mais voilà, c'est loin, je veux dire. Maintenant, j'ai 92 ans. Si vous voulez, ça fait...
On a l'impression que vous savez faire chavirer un homme. Vous êtes obligée de sortir les rames, Clémentine Célarier.
Moi, si vous voulez, tous ces trucs-là, c'est pas de mon actualité du tout, de faire chavirer, de savoir si je vais faire chavirer. Non, par contre, il y a un homme que j'aime beaucoup, que je trouve très très beau, mais je peux pas dire qui c'est.
Si,
non, il est public en plus. Non.
Ça me gênera pas, vous pouvez le dire.
Je le trouve juste beau.
Comédien.
Qui c'est? Alors, ça va être récupéré, ça. Hein. Alors, immédiatement. Hein.
Allez-y.
Je trouve que Stéphane Le Foll est tout à fait charmant. Je pense que il doit être... Non, mais c'est vrai, on a le droit de dire.
Bien
de toute façon,
sûr,
on s'en fout d'être récupéré sur les réseaux sociaux. Et je l'ai croisé et je trouve qu'il a un côté John Wayne. Donc, Clémentine Célarier a dit que. Non. Mais voilà, je trouve qu'il a quelque chose de chouette. Il doit être un. Voilà, il a du charme, c'est tout. Mais il y en a d'autres qui ont du charme aussi.
Gérard Collomb.
Je sais pas qui c'est.
Clémentine Célarier, vous êtes une femme engagée. On a tous en mémoire le baiser que vous avez échangé avec un jeune homme séropositif en direct à la télévision sur le plateau du Sud Action. Vous aviez prémédité ce geste ou ça vous a paru la seule chose à faire pour lutter contre les idées reçues à l'époque?
C'est-à-dire que je pensais que tout le monde allait s'embrasser, hein, c'est ce que je répète toujours. Je pensais que, cet endroit était l'endroit de, si on parlait du sida, au moins qu'on ait la décence de serrer des gens dans les bras, de les. Alors, à un moment donné, je vois que ça se fait pas. Donc, je me dis merde, et puis je me dis, il faut que t'embrasses quelqu'un, quoi. Donc, je demande au monsieur derrière, qui s'appelait Patrice Janiot. Et d'ailleurs, c'est lui le héros, n'est-ce pas? C'est lui, c'est pas moi. C'est lui qui a eu la gentillesse de m'embrasser. Et puis, parce qu'après, on l'a emmerdé toute sa vie. Hein. Et dis donc, et Clémentine Célarier, elle est comment? Non, mais de quoi? Et moi, on me dit, vous allez bien. Enfin, je veux dire, mais c'est à lui qu'il faut demander ça, pas à moi. Donc, prémédité, je pensais que tout le monde allait le faire.
Bon. Donc là, vous venez nous parler d'un film qui sort aujourd'hui, qui s'appelle.
Ah oui, pourquoi on est là déjà?
En 1000 morceaux avec Serge Rabouquine. Oui. C'est un drame à huis clos. C'est sur le thème du pardon, de la résilience et de la peine de mort. Mmh. Donc, c'est une femme dont on a tué l'enfant qui rencontre le meurtrier et qui lui pardonne.
Enfin, non, elle lui pardonne pas.
Elle essaye
d'aller vers la lumière, elle essaye de le de le comprendre, de l'entendre.
C'est un film que vous avez tourné dans des conditions un peu rock'n'roll.
Complètement.
À Dreux, parce que oui. Personne ne voulait le financer. Vous avez été hébergé dans une maison de retraite.
Absolument. Il y avait un livre qui nous disait « Comment bien vivre ?» Non, mais si vous voulez, y a, quand on est acteur, on ne parle jamais de l'âge non plus. Et là, on est logé dans une maison de retraite, déjà, quand même. Et puis, en plus, il y a ce bouquin qui dit « Comment bien vieillir ?» à l'accueil, enfin, dans l'appartement qu'on avait. Mais on s'en fout. Enfin, voilà. Je disais ça parce que ça me faisait rire et qu'il y a des actrices qui ne supportent pas.
Les petits déjeuners avec les personnes âgées.
Non, on ne prend pas de petits déjeuners. On tournait à 7h du mat, on allait direct sur le plateau.
Dans un hangar, vous étiez dans le froid.
On se pelait le jonc, comme diraient nos amis des visiteurs. Et donc, on tournait. Mais c'était bien parce qu'on était... Il y a une synergie, vous voyez, il y a une espèce
une
de
urgence.
Truc, une urgence de faire les choses. On a volé 15 jours au temps. Véronique Mariadec s'est battue pendant 3 ans
la
pour faire ce film.
Ouais.
La réalisatrice. Serge Diaboukine est un mec absolument incroyable, un acteur incroyable. Et on a eu très froid, mais on avait très chaud en tournant parce qu'on essayait de faire des belles choses. Et
vous
c'est
êtes heureuse
un film
du résultat de ce
hors
film.
Du commun. Ah oui, oui.
Clémentine Sélarié, ce film, donc en 1000 morceaux.
Ouais,
c'est
merci
un
en tout
film
cas.
Coup de poing.
Oui, merci.
Et beaucoup. Ben, vous conseille d'aller voir. Clémentine Sélarié,
bonjour.
Regarde, Jean-Philippe Bizine d'un air effaré.
Ah bah je suis chauffeur de salle
pas du
en
tout.
Stage.
Clémentine Sélarié, vous êtes aussi au théâtre en ce moment sur la route de Madison. Plein de dates de tournée à partir du 4 octobre jusqu'au 2 janvier. Et c'est donc l'adaptation du film Le Clint Eastwood. Vous prenez le rôle de Meryl Streep.
Oui.
C'était pas trop lourd de passer.
Non.
Parce que j'ai eu Clint Eastwood au téléphone qui m'a dit que Meryl Streep ne dormait plus la nuit. Vu qu'elle a appris que vous repreniez
son
rôle.
Il va bien, Clint. Non, mais.
Oui, il m'a dit qu'il viendrait pour votre dernière d'ailleurs.
Oh, mais comme c'est gentil. Thank you, Clint. Non, mais
ça me pas une pression de dingue de passer après Meryl Streep, Clémentine Sélarié.
Enfin, on pense pas à ça, sinon on fait rien.
4 octobre, Royal Malmaison, Bursur, Yvette, Issoudun, Montauban, Carcassonne, Annonay, Vias, Vernon,
Épernon,
Châteaudun, Porto Vecchio, Comte, Poudale, Melzo, Chasseville,
Paris.
Oui,
en Bretagne, moi j'adore la Bretagne, j'embrasse toute la Bretagne.
Vous dites que vous prenez de plus en plus de plaisir sur scène, Clémentine Sélarié ?
Ben oui, parce que moi j'ai besoin que ça... Vous voyez, que ça bouge, que ça bouillonne, que ça... D'être en live. Parce que quand vous êtes avec les gens, vous partagez une énergie qui est hors du commun. C'est un instant qui est rare, qui est exceptionnel. Et donc, c'est
vrai
que...
Vous aimez les moments intenses, Clémentine Sélarié.
Ah oui, c'est pour ça que...
Les hommes intenses, les moments intenses.
Bah, les instants intenses, les trucs forts, quoi. Bah, sinon, on s'emmerde.
Je vous présente Ben H qui a fait un portrait intense de vous.
En parlant de moments intenses. Anne, en préambule, il est important de souligner que ce portrait sera parfaitement nuancé, hein, sans la moindre extravagance, parfaitement factuel sur la carrière de Clémentine Sélarié. Je resterai parfaitement neutre. Hein, voilà, ne comptez pas sur moi pour vous laisser penser une seule seconde que je suis amoureux de notre invité depuis que je suis tout gosse. Non. Oh. Neutre, factuel, professionnel. Clémentine Sélarié, bonjour. Non, j'ai dit neutre. Non, pro. Non, je mange pas de ce pain-là, peu de classe. Je reprends, pardon. Clémentine Sélarié, bonjour.
Bonjour.
Autant le dire clairement, Clémentine, vous avez joué dans le cultissime 37 de le matin. Moi, face à vous, là, je suis à 39,5 le midi, minimum. Clémentine Sélarié, sachez que vous êtes tout simplement ma référence de femme avec un grand F. Voilà, toutes les femmes, hein, vous êtes ma référence de maîtresse, de sœur, de tante, de copine lesbienne, de voisine du dessous. Prenez le rôle que vous voulez dans ma vie, je vous le donne. Hein, si vous voulez devenir ma mère, on peut appeler la titulaire du poste immédiatement et la libérer de ses fonctions sur le champ. Pas de problème, de toute façon, ça fait 30 ans qu'elle a le poste, elle en branle plus une, donc il y a un moment. Ah, lorsque j'avais 6 ans, Clémentine Sélarié, j'ai découvert la femme extraordinaire que vous êtes pour un baiser devenu mythique avec le temps. Plus tard, j'ai rencontré des femmes ordinaires et un peu bêtes pour des baises devenues comiques avec le temps. Et si systématiquement j'ai découvert, c'est un peu grâce à vous, Clémentine. Un baiser qui a peut-être rendu meilleure toute ma génération, plus informée, plus protégée, plus tolérante. Ce jour-là, vous faisiez avancer le monde avec de l'amour, sans mandat, sans cravate, juste avec de l'amour. Vous avez matérialisé vous-même l'expression « embrasser la cause ». Et puis j'ai grandi. Entre vos films et vos pièges, j'ai suivi tous vos engagements. Il est important de préciser que toutes vos indignations ne vous font pas embrasser des gens systématiquement. Hein, par exemple... On vous s'est engagé auprès des réfugiés, hein, vous n'allez pas les embrasser quand ils passent la frontière tous un par un. Ayant grandi en Afrique, vous dites par ailleurs que vous êtes noir. Hein. Et ben moi aussi. Oui, écoutez, moi aussi. Vous, c'est pour vos racines africaines. Moi, c'est pour juste embêter Zemmour. Ah, je suis prêt à tout pour l'énerver. Mais oui, je suis comme vous, Clémentine, engagée et libre. Alors, pour conclure, ce portrait absolument neutre. Chère Clémentine salariée, non. Ne soyez ni ma mère, ni ma sœur. Non, car moi, je serai votre soldat, le premier homme de votre armée. Oh. Celle qui fait avancer le monde avec des baisers. Mon soldat,
alors ?
Elle est sous le charme.
Ben, je vais aller vous embrasser déjà.
Allez ! On a perdu Ben H. Il est à terre.
C'est trop joli. Non, mais c'est trop joli ce que vous avez écrit.
Mais il l'a fait pour ça.
Je suis vraiment
il
pas bien.
Il a donc réussi.
Ah, j'enfile à les boules.
Non, vous aviez dit, vous aviez imaginé que tout le monde allait s'embrasser sur le plateau, tout ça. Moi aussi, je vais aller dans le public.
Mais ouais, merci, c'est trop gentil.
C'était parfaitement sincère.
C'est trop, c'est touchant, vraiment. Merci beaucoup.
Il y a un climat de chaleur là.
Et attends, t'es pas dans mon pull là.
Vous avez souvent des témoignages comme ça de grande affection du public, Clémentine Sélarié ?
Oui, les gens dans le public, enfin les personnes, on va dire, sont très chaleureuses souvent. Ça me touche parce que si vous voulez, quand on a l'impression d'être compris, c'est fort, quoi. Parce que quelquefois, on n'est pas compris. Quand on est plus jeune, on est moins compris, par exemple, parce qu'on croit que c'est des caprices, vous voyez, qu'on fait. Puis à faire avec le temps, en fait, c'est ça qui est bien, le temps qui fait, c'est que ça confirme certaines choses. Donc les gens, ben, ils nous croient, en fait, vous voyez, enfin.
Croient dans votre sincérité.
Mais ils croient dans ce que vous faites. Donc, et c'est vrai que c'est super ce que vous dites, c'est que sincèrement, en plus, c'est moi, il y a des moments où je me dis que ce baiser, c'était comme un virus de l'amour qui devait se diffuser contre le sida et qui pourrait se diffuser contre plein de trucs aujourd'hui, d'ailleurs. C'est vrai ce que vous dites, ça me donne des idées. Ah, je vais embrasser tout le monde.
Ben voilà. Clémentine, c'est vrai, vous faites de l'effet aux hommes quand même, hein.
Non,
bah regardez Ben H.
Comment on fait pour faire de l'effet aux hommes ?
Mais n'importe quoi, elle est folle, enfin. Je fais pas d'effet aux hommes, j'en sais rien.
Oh bah lui, vous lui faites de l'effet.
Pas de l'eau, s'il vous plaît.
Vous dites, Clémentine Sélarié, que vous avez déjà été d'ailleurs avec un homme plus jeune, mais à l'époque, les gens n'étaient pas habitués
souvent.
À ça. Souvent.
Bah oui. Enfin, ouais. Ça tombe comme ça. Ouais. Mais alors ça, c'est un gros bordel aussi. Alors ça, on dit qu'on est. Oui, par exemple, ça, pardon de vous couper, Anne, mais ça, c'est un truc, on est ancestraux avec ça. Je veux dire, c'est d'être avec un homme plus jeune, on se sent coupable. C'est pas normal. Il faut pas juger les gens entre âge.
Je suis d'accord avec vous.
Vous avez eu fait vrai, le plus, horrible. C'était combien de différence d'âge, Clémentine Sélarié?
Le plus, 30 ans.
J'adore. Bon. C'est comme si moi, j'étais avec un mec de 23 ans.
Mais oui, alors, mais bon, enfin, il y a des gens qui ont 23 ans. Non. Il y a des gens qui ont 23 ans, des hommes qui ont 23 ans, et qui ont des âmes, des âmes anciennes, qui très, très matures. Et puis des gens qui sont très vieux d'âge physique, qui n'ont aucune maturité. Puis, je sais pas, c'est un truc de. C'est comme ça.
Léa Landau a des questions à vous poser, Clémentine Sélarié.
Hier, j'ai pris conscience que ma semaine allait être marquée par deux événements, la disparition de Charles Aznavour et ma rencontre avec Clémentine Sélarié. Prise par l'émotion, tout s'est embrouillé dans ma tête et je vous ai tout naturellement préparé une interview Charles Aznavour.
Oui,
vous allez comprendre.
Plaisir.
Vous partagez l'affiche de Sur la route de Madison avec Aurélien Recoing et Gérald Cesbron. C'est déjà arrivé à l'un d'entre eux pendant les répètes ou dans les loges de vous dire
« J'en ai assez, faut bien que je te le dise. Tu m'exaspères, tu me tyrannises. »
C'est beau.
Ça se passe bien en dehors de la scène avec eux ?
Ça se passe... Oui. Non, mais je sais, quelquefois, je suis trop impulsive, vous voyez. Enfin, ouais. Ça m'a valu des problèmes, d'ailleurs, quelquefois, dans des émissions et tout ça, de télévision. Mais non, là, maintenant, j'essaye. C'est ça qui est bien aussi avec l'âge, c'est qu'on commence à se connaître. Donc, on se dit, non, Myriam, c'est mon vrai prénom, calme-toi, ne dis pas tout de suite, machin, parce que j'ai peur d'oublier quelquefois.
Puis vous parlez à vous-même, vous dites, Myriam, oui. Calme-toi.
Vous faites ça.
Sur la route de Madison, c'est une magnifique histoire d'amour qu'on connaît tous, ce qui me fait repenser à tous mes ex qui m'ont souvent dit
« Ah, j'ai décroché le gros lot le jour où je t'ai rencontré. »
Alors que les ex d'Anne lui disaient
« Je me demande chaque jour comment as-tu fait pour me plaire ?»
Oh là là,
Et vous, Clémentine Sélarié, quels souvenirs vous laissez dans l'esprit de ceux qui ont partagé votre vie ?
Un jour, un homme a dit « Tu surfes avec ta vie. » Mais bon, oui.
Vous êtes un ouragan, je suis sûr.
Bon, question suivante.
Est-ce qu'il y a eu des périodes dans votre carrière, Clémentine Sellarié, où vos proches vous ont dit...
Tu te laisses aller, tu te laisses aller.
Au contraire, on dit calme-toi, calme-toi.
Clémentine Sellarié, bon, on l'a dit, vous avez la réputation de ne pas vous laisser faire, d'être une femme de caractère. Dans le métier, oui, on vous a déjà dit...
Si tu te taisais, ce serait trop beau.
En fait, je ne suis pas du tout aussi forte qu'on croit et je ne suis pas autant une femme de caractère. C'est faux.
Vous êtes fragile.
C'est-à-dire que quand on va dans des émissions, par pudeur, je n'ai pas commencé à faire la diaphane et névrosée. Vous comprenez ? Dire un mot, dire oui, non.
Faire l'actrice.
Toujours, j'étais là-bas. Oui, je ne peux pas faire ça. Pourquoi ? C'est chiant. Donc forcément, j'ai envie de faire le clown, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a des moments où... Enfin bref, on s'en fout, voilà.
Clémentine Sellarié, est-ce qu'avant de venir aujourd'hui, en vous imaginant ici, vous vous êtes dit...
Je me voyais déjà racontant ma vie...
Je me disais, avec Anne, ça va être un truc assez hors du commun. Et c'était,
et c'était le cas.
Merci
beaucoup.
Notre invité s'est fait connaître avec le duo Frérot de la Voga. Mmh. Repéré par The Voice, il nous expliquera comment il a résisté au décollement de rétine avec les costumes de Mika. Il vient nous présenter son premier album solo, Matryoshka, sûrement en hommage à mes origines russes. Ben, on peut rêver. Hein. Il est beau, bronzé, musclé, plein de talent. C'est donc pour sa sécurité que je l'ai éloigné de Jérémy Lorca. Merci d'accueillir Jérémy Frérot.
Merci. Et je pense que pour sa sécurité, je pense aussi que pour sa sécurité, on devait peut-être l'éloigner de vous aussi.
Alors Jérémy Frérot, c'est votre premier album solo. On vous a connu avec Frérot de la Vega en duo. Mm-hmm. Alors c'est dur de se retrouver seul après avoir...
C'est différent, ça peut être dur. Ouais, il peut y avoir des moments de doute.
Vous dites que pour les interviews, au début, vous aviez du mal tout seul.
Ouais,
d'habitude, c'était lui qui répondait.
Je m'en étais pas rendu compte, mais c'est lui qui construisait plutôt l'interview. Moi, j'étais plutôt là pour agrémenter et faire joli. Je disais plutôt plus de conneries qu'autre chose. Donc, y avait aucune construction. Et les premières, quand je suis arrivé, je m'étais jamais posé la question et c'était assez compliqué. Ouais.
Et la scène tout seul, ça s'est passé comment ?
Et la scène, je l'ai un peu plus préparée. Je savais que ça allait être chaud et qu'il fallait que je travaille. Et ça s'est bien passé. Là, on a fini la tournée d'automne et c'était trop trop bien, quoi. On a joué 11 dates. On a fini à La Cigale la semaine dernière et on a
le
vraiment...
public est venu, même si vous étiez tout seul.
Bah ouais. Et c'était le public des Frérot parce que ils ont les places sont parties
aussi vite que pour quand vous étiez à deux.
Ouais. Et
du coup, vous gagnez plus d'argent tout seul.
C'est un côté business.
Deux fois plus. Non, mais c'était les gens des Frérot parce qu'on n'avait pas fait de pub et les salles se remplissaient quand même.
Donc, c'est génial.
Ouais, c'est
super. Et pourquoi vous avez arrêté ? Parce que lui se sentait pas bien, c'est ça ?
Lui en avait marre, ouais.
Marre de vous ou marre de...
Non, marre de
du système de...
De tout ce qui est en dehors des tournées, quoi.
D'accord.
C'est
ouais,
le
showbiz,
business,
tout ça. Voilà. D'être aimable avec les gens, faire des interviews le matin, des choses comme ça.
C'est un peu ça. Ouais.
Et vous y arrivez à faire tout ça?
Je sais pas si j'y arrive. Bon, en tout cas, j'arrive à gérer un peu plus, peut-être. Ouais. Et puis, je me suis dit aussi que quitte à. Enfin, on a une place qui est très, très rare. Et il faut la garder.
C'est très difficile d'avoir du succès en effet dans la chanson. Donc là, vous avez un succès.
Juste la place devant ce micro, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent l'avoir. Donc il faut la garder, il faut l'utiliser.
Vous avez une chance d'être devant ce micro. Voilà. Dites-le à ces chroniqueurs qui s'en rendent compte.
Nous, pauvres ingrats.
Mais oui.
J'ai une chance, ouais, c'est vrai.
Et alors, avoir un physique aussi agréable, ça aide
Je ne sais pas du tout si ça. Oui, je pense ça a dû fonctionner. En fait, nous, les premières fois qu'on s'est fait reconnaître, c'était parce qu'on faisait des vidéos sur YouTube.
Ouais.
Et je pense que oui, l'image.
En duo.
Et l'image a dû
démarrer de là.
Ouais. Voilà.
On se sent tellement moche, nous, à côté.
Parle pour toi, moi, ça va.
Hein. Non, j'ai dit nous à côté. J'ai dit nous à côté, tous.
Mais vous deviez avoir un succès incroyable, genre quand on était. Parce qu'ado, on a tous galéré un peu boutonneux, etc. Mm. Mais vous, si vous saviez jouer la guitare, chanter, ça devait marcher grave.
Ouais. Bah, alors, ça s'est fait après l'adolescence.
Ouais.
Donc, c'était moins ingrat déjà. Et oui, c'est vrai qu'en plus, on avait toute la panoplie avec nous. Hein. On a commencé à jouer, on était sauveteurs en mer.
Il y a un concert un jour, quelqu'un vous a crié à poil plusieurs fois.
Exactement, ouais, c'était en Belgique. Et
une femme ou un homme ?
C'était une femme. Mmh. Et le concert commençait très solennel, avec du silence, un peu de gros son, mais de basse. Et la fille n'arrêtait pas de hurler parce qu'on l'égorgeait.
Anne, qu'est-ce que vous faisiez? Ah
bah ça, bravo Anne. Et pour qu'elle arrête de crier, vous avez
et
fait
donc,
quoi?
Et donc j'ai le premier mot qui est sorti avant bonjour et la chanson, c'était ta gueule.
Elle l'a bien pris?
Je sais pas, je me suis fait applaudir en tout cas.
Alors il y a des concerts là, qui vont venir, Jérémy Frérot?
Oui, au printemps, on repart sur une tournée un peu plus grosse avec plus de un musicien en plus. En fait, on était trois là sur scène et on en prend un pour agrémenter un peu plus le son parce que on a appris qu'on faisait pas mal de festivals en fait. Je pensais pas que les gens
ça marcherait comme ça. C'était une heureuse surprise parce que finalement vous êtes lancé en solo et vous saviez pas si ça allait marcher.
Complètement. Je pensais que les programmateurs n'allaient pas se réveiller tout de suite.
Et là ils vous se sont et vous ont pris tout de suite.
Ouais. Donc
ils ont vu que les salles se remplissaient donc ils ont dit c'est bon.
Ouais, sûrement. Et puis ils ont dû voir aussi le concert. Donc je pense que ça m'a mis un peu la pression. Et je me suis dit au lieu de mettre plus de vidéos, je vais peut-être mettre plus de musique pour arriver prêt pour les festivals.
Et votre ex, mais c'est votre ex, ouais, Florian de la Vega. Alors il suit votre succès, il est content pour vous.
Ouais, carrément.
Parce que vous êtes restés très copains. Amis,
bah,
même.
Bien sûr,
c'est votre meilleur ami.
On s'est vu, c'est un de mes meilleurs amis carrément, et on s'est vu cet été pendant la construction de l'album.
Et lui, il fait quoi maintenant? Il est retourné sauveteur en mer?
Non, sauveteur en mer, en fait, c'était vraiment un
job d'été.
D'été, ouais,
vous avez sauvé beaucoup de gens quand vous étiez sauveteur en mer, Jérémy Frérot. Ah oui.
Ouais, bien sûr.
C'était où?
C'est hyper important cette place. C'est à la sortie du bassin d'Arcachon, une plage qui s'appelle la Salie, juste avant Biscarrosse.
D'accord.
Et on est assez important sur ces plages. Si on n'était pas là, je pense qu'il y aurait pas mal.
Surtout qu'il y a beaucoup de vagues dans cette
région. Il y aurait pas mal de
problèmes. Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant alors votre ex?
Il s'occupe.
C'est énorme. Votre ex partenaire. Oh là là, on a compris.
Il s'occupe de sa maison. Il a pour projet de faire une maison autonome entièrement. Donc,
ouais, c'est genre un baba cool, guitare, machin.
Il est vegan, je parie, non?
Ouais, complètement.
Ah, mais c'est l'âme de ma vie.
Comment est né cet album? Alors, comment c'est vous qui avez écrit de la musique, des textes, qui les a écrits?
Oui, j'ai été aidé, pas mal. Ouais. Mais j'avais envie d'être aidé parce que j'aime pas du tout un album entier écrit par une seule personne, composé par une seule personne. Je trouve qu'au bout de 2-3 chansons, ça tourne en rond. Ouais, ça tourne rond. Et donc, j'ai fait appel à d'autres gens, comme Laurent Lamarca ou Benjamin Mazuet, qui sont des auteurs hors pair, et j'avais besoin d'eux. Et ensuite, les deux réalisateurs, en fait, c'est les réalisateurs du dernier album des Frérots de la Vega.
Donc, il y a le même son, en fait. Pour les fans des Frérots de la Vega, ils vous retrouvent.
Il n'y a pas vraiment le même son, mais il y a les mêmes
le
idées.
Le même esprit.
Voilà.
Puis l'identité vocale aussi, c'est la même, parce que c'était un peu vous, quand même, l'identité vocale du groupe.
Ouais. Alors après, elle est peut-être un peu plus mise en avant. Et du coup, ça doit un peu...
Avant d'écouter un extrait, Jérémy Frérot, on va écouter Jérémy Lorca qui va nous parler des femmes. Oui. Vous y connaissez en femmes, mais...
Mais moi, c'est pas du tout mon domaine, sachez-le. Bref, alors, on a beaucoup parlé des femmes ces derniers jours. On a eu le concours Miss France avec pour la première fois un jury uniquement féminin et des Miss qui ont défilé en arborant des messages assez féministes. Hier ont été élues les femmes les plus influentes du pays. Moi, je vais vous dire, j'ai un immense respect pour les femmes, surtout depuis que je me suis fait épiler. En tout cas, l'esthéticienne, elle a tiré la bande. Je lui ai dit stop, j'ai d'autres combats à mener dans la vie. Elle m'a dit, mais j'épile des femmes toute la journée, il n'y a jamais de problème. J'ai répondu, oui, mais parce que les femmes sont bien plus courageuses que nous, c'est bien connu. Alors pourquoi vous gagnez moins? Faut que ça s'arrête. Alors Anne, je ne crois pas trahir un secret en disant ça, mais ici on est payé pareil. Il n'y a pas de distinction entre les chroniqueuses et les chroniqueurs. Donc non, dans cette émission, on n'est pas payé en fonction de notre sexe. Ah bah sinon, je gagnerais beaucoup plus que Laurent Barra, mais beaucoup moins.
Je sais pas comment
Michel
je dois prendre
Kroga.
Cette histoire. Ouais, parce que si on est payé à la taille, je gagne. Hein.
Bah, c'est ça. Alors, l'année dernière, à la même époque, on était encore en plein dans les conséquences du mouvement MeToo, balance ton qui ont contribué à libérer la parole des femmes. Alors moi, ce qui m'avait fait peur, comme dans chaque nouveau mouvement, c'est les extrêmes. On se souvient que Caroline Dehas avait déclaré « Un homme sur trois est un prédateur sexuel ». Donc Jérémy, Michael et Laurent, il y a un de vous trois qui va devoir se dénoncer. Bah non, c'est ridicule. Le chiffre n'avait même pas été prouvé. Et face à ça, 100 femmes avaient signé un manifeste, dont Catherine Deneuve, qui réclamait la liberté de se faire importuner, sachant que c'est le synonyme de se faire emmerder. Alors je sais pas où elle en est, Catherine, un an après, mais moi, je crois pas que Christine, quand tu te réveilles le matin, tu dises « Ah bah tiens, j'ai pas de chronique à écrire, j'ai mis des somnifères dans le biberon de ma fille, je vais en profiter pour déjeuner avec ma meilleure amie, je vais aller chez le coiffeur refaire ma couleur parce que là j'en ai vraiment besoin.
T'as bien le message caché.
Non, ça va être cool, je vais passer une bonne journée. En revanche, si je pouvais me faire siffler dans la rue ou entendre un petit « Wesh mademoiselle, t'es bonne !» je me sentirais libéré. Mais libéré, bah non, ça libère que Catherine Deneuve. Là où j'ai réalisé que les choses avaient évolué, c'est parce qu'hier, j'ai eu affaire pour la première fois de ma vie à une frotteuse dans le métro.
Vénard.
Ça existe.
Ça existe. Jérémy, vous avez déjà été confronté à des filles, j'imagine, qu'on est même baladeuses.
Ouais, complètement. Ouais.
À poil. Là,
ouais. on va dans le public des fois. Ouais. Des fois, on le faisait et ouais, c'était assez.
Et vous réagissez comment?
Bah, tu réagis pas ou.
Ah, il y en a qui bloquent.
Ah oui, complètement.
Carrément. Ouais, ouais. Faut que je fasse de la musique, moi.
Mais il faut que t'aies sa tête, surtout.
Oh, bah, merci, c'est sympa.
Bienveillante avec vos chroniqueurs.
Je vais aller me pendre en forêt, merci.
Non, parce que.
Il y en a deux.
Vous, c'est l'habitude, mais pour moi, pour la part, ça relève du miracle. Hein. Les gens dont j'avais envie de me toucher. Moi, je me touche à la rigueur beaucoup, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc là, je sens quelqu'un qui me frôle les fesses. Je me dis, bon, la fille, elle doit chercher un truc dans ses poches. Elle passe sa main de gauche à droite. Eh ben non, sa main se pose. Je me retourne, je dis, mais mademoiselle, c'est mes fesses. Elle me répond, oui, je sais. J'étais partagé entre lui dire non mais t'es malade, range tes mains, et en même temps j'ai envie de la féliciter parce que c'est ça la parité, on y est arrivé. En fait, le fait de toucher mes fesses c'était presque un acte militant. Alors si quelqu'un veut militer autour de cette table, non. Et pour les autres, et ben retrouvez-moi sur la ligne 9 tous les matins. Merci beaucoup et vive les femmes.
On va tout de suite écouter un live de Jérémy Frérot. C'est quel titre que vous allez nous chanter, Jérémy Frérot?
C'est Tu donnes.
Tu donnes.
Oui.
Je perds le nord, quand la vie me fait courber les chines, quand l'hiver dévore mon esprit jusque dans les abîmes. Caresse mon cœur avec tes mots doux. Caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en riant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes. Tu connais ta chance. Toi, t'as choisi le côté qui scintille. Et tu sais la danse que fait l'existence quand tu brilles. Caresse mon cœur avec tes mots doux. Caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en riant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Ça ira, va, t'inquiète pas, quand tu me le dis, ça marche sur moi. Je me dis que j'ai pas le choix, qu'avec les yeux que t'as, quand tu regardes la vie, on comprend qu'avec toi, il peut tout arriver. Ah, 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 il peut tout arriver. Ah, 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 rien qu'en riant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes.
Oh, oh.
Bonjour, Denis Maréchal, vous êtes à ce moment à l'Apollo Théâtre.
Tout à fait, c'est vrai. Encore. Enfin, je reviens, ouais. Ouais. Je viens de revenir, ouais.
Ça se passe bien ?
Bah, ça se passe pas mal, ouais, carrément. Je suis bien installé, je suis bien traité. On est bien assis, il y a la clim, enfin, tout va bien, ouais.
Vous êtes parti en vacances, Denis Maréchal ?
Je suis parti en vacances, bien sûr, et en plus, j'ai utilisé, alors parce qu'on me disait que j'étais un peu ringard, j'ai quand même utilisé Internet cette fois-ci pour partir en vacances. J'ai pris les comparateurs. Tu sais, il y a les comparateurs de vol, ça, ouais. C'est bien, ça. C'est génial parce que, voilà, tu vois, moi, j'ai pris l'avion pour la Croatie, donc il y a plein de. Voilà, toutes les, comment on appelle, les compagnies aériennes, 500 euros, d'un seul coup, 300 euros. Bien, c'était easy, chouette. Super, vous connaissez ? C'est top, c'est 300 euros. Ah, donc on clique, voilà, puis après on nous dit, bon, est-ce que vous voulez voyager assis ? Donc là, on réfléchit, puis on se dit, ouais, d'accord, je prends. Donc ça, c'est 19 euros par place. Ouais. Bon, ça va. Après, on vous dit, est-ce que vous voulez voyager avec votre femme ? Enfin, à côté. Là, vous réfléchissez, parce que vous dites, tiens, 3 heures sans elle, c'est peut-être déjà le début des vacances. Puis après, on vous demande si vous voulez des bagages. Donc, bon, ben, pour 15 jours, j'ai dit d'accord. Et puis, bon, ben, là, c'est 39 euros par bagage. Donc, voilà, ça fait 700 euros au lieu de 500. C'est bien.
Denis Maréchal, alors, quand vous avez démarré en 96.
Ah oui, j'ai eu peur.
Vous avez participé à l'émission Graines de Star, ouais. En duo avec Bertrand Frondet, mais vous avez battu Jean Dujardin.
Oui, j'ai battu Jean Dujardin, et vous avez vu, le pauvre, maintenant, il fait des films en noir et blanc. Ça craint, tu sais, en noir et blanc, sans parole, ils n'ont même pas de thunes pour le son, ça craint, non ?
Il paraît que souvent, Denis Maréchal, dans la rue, on vous confond avec Harry Roselmack.
On confond souvent avec Harry Roselmack ou avec Éric Judor. Mais il y a une dame. Il y a une dame qui m'a reconnu la semaine dernière. Elle m'a dit, vous êtes un comique ? J'ai dit, j'essaye. Elle m'a dit, oui, vous êtes Denis Maréchal. J'ai dit, tout à fait. Elle m'a dit, ouais, je vous ai reconnu grâce à votre visage. J'ai dit, c'est souvent comme ça qu'on fait, surtout entre humains, quoi. Je lui ai dit, je suis assez content que vous ne m'ayez pas reniflé. Elle a dit, vous croyez que je suis une chienne ? J'ai pas répondu, mais voilà.
Ça arrive qu'on vous confonde vraiment avec Harry Roselmack et vous fassiez croire ?
Non, j'ai jamais fait croire, mais je devrais. C'est une bonne idée, ouais. Mais j'ai déjà signé pour Éric Judor. Éric Judor, tout le monde voit, hein, c'est Éric de Éric Ramsey, enfin le mec de EDF.
Vous avez déjà signé à sa place ?
Ouais, j'ai déjà. Parce que la dame était déçue. Elle me dit, je vous adore et tout. Je lui dis, je signe Denis Maréchal. Elle dit, mais non, c'est pas ça.
C'est dur.
Mais où est la ressemblance avec Éric Judor ?
Ah, regarde, si, moi-même, je la vois quand je
la coupe. Ouais. La coupe, ouais,
du coup. Et du coup, vous avez fait un autographe ?
Et ouais, du coup, j'ai mis Éric Judor, elle était contente. Ouais. on est là pour faire plaisir aux gens. Hein.
C'est vrai. Hein.
Et alors, à quoi sert un visage, Denis Maréchal ?
Ah, c'est ça.
Non, parce que par exemple, c'est ça que vous répondez à des questions comme ça.
Mais ça, c'est la reconnaissance faciale. Ça me fascine. C'est évidemment un truc dont on sert. On scanne très vite. C'est le cerveau qui le fait à notre place. Quand on croise quelqu'un, je connais pas. Vieux, jeune, homme, femme, Bogdanov. Enfin voilà, il y a. Non, mais c'est un truc qui me fascine. Par exemple, dans le couple. Vous l'avez déjà dû l'entendre, quand on reste très très longtemps ensemble, les couples qui durent, on dit que les deux personnes finissent par se ressembler. Vous avez déjà.
Ouais, ouais.
Et c'est encore plus vrai si t'es marié avec ta sœur.
Il paraît que vous êtes toujours célibataire, Denis Maréchal.
C'est pas ça.
Il a pas de sœur.
C'est compliqué, elle écoute.
C'est pas ça, mais
vous
c'est
vogué de femme en femme.
Non. Moi, je suis avec quelqu'un, c'est assez stable.
Mais ça fait combien de temps?
La journée n'est pas finie.
Non, ça fait ça doit faire
quatre ans.
C'est super précis, ça fait 2, 3, 4 ans.
Alors vous parlez des sites de rencontres, Denis Maréchal, dans le spectacle?
Je parle des sites de rencontres parce que évidemment c'est le gros carton, parce que justement les gens cherchent évidemment l'amour et puis pourquoi ça cartonne ? C'est parce que ils ont toujours des nouvelles accroches. Hein, ils vous disent avec nous, ça sera une rencontre d'élite. Hein, on vous dit en amour aussi, soyez ambitieux. Hein. On vous dit pour célibataire exigeant. Ah, évidemment, t'es exigeant. Ouais. Tu vas pas aller sur mettez-moi ce qui reste.com. tu sais, le truc des désespérés, dernièrechance.fr, cinquième des marques, Black Friday,
tombé du camion.
Denis Maréchal, vous parlez beaucoup de l'amour dans ce spectacle à la pause de théâtre.
Parce que je pose des questions, Anne, aux gens carrément pour savoir ce qui les rend heureux. Et évidemment, l'amour... Et bizarrement, l'amour arrive assez tard. D'abord, c'est l'argent.
Bah pour faire l'amour, il faut de l'argent. Ouais, hein, donc, ouais.
Ah oui, bah mais pour toi, oui. Tu parles de tes trucs perso. Non, mais c'est vrai. Alors, moi, je leur rappelle que l'argent ne fait pas le bonheur. Bon. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur, évidemment, ce sont les riches qui disent ça. Hein. Les pauvres, ils disent, bah, nous, on vérifierait bien par nous-mêmes. Hein. Mais l'amour, oui, arrive quand même. Et on est tous d'accord que, évidemment, c'est essentiel, mais que c'est compliqué dans nos sociétés de faire un truc tout droit. Hein. Tu rencontres la personne à 16 ans, puis jusqu'à la fin, ça roule. Bon, j'ai le temps de vous raconter un truc perso,
oui,
justement.
Ouais, ouais.
Alors, parce que, justement, moi, un jour, j'ai cru que c'était bon. Que, tout à l'heure, vous me posiez la question, oui, ça fait combien de temps, vous allez de femme en femme? Non. Un jour, j'ai cru que c'était bon avec Magali. Pendant 4 semaines, j'ai dit, c'est elle. C'est... Non, mais vraiment, j'ai cru que c'était... Tu vois, j'étais tombé sur la bonne. J'ai dit, elle me correspondait parfaitement, j'adorais sa peau. C'était... On avait des projets. Et puis, un après-midi, comme ça, elle s'est mouchée sans mouchoir. Elle a utilisé cette technique dite du trappeur, ou peut-être même de Néandertal, voire du footballeur. Franchement, ça a brisé un truc chez moi.
J'espère que t'es parti avant qu'elle aille aux toilettes.
Non, mais je sais, ouais, je te vois venir, évidemment. Vous allez me dire, Denis, tu nous dis que c'est la femme de ta vie. Après, tu t'arrêtes à pas grand-chose. Est-ce que tu serais pas un peu bourgeois? Est-ce que tu serais pas un peu coincé? Est-ce que t'aurais pas un balai? Mais, non, mais tu vois, si c'était arrivé en randonnée ou en trekking, en accrobranche, voilà, tu vois, la meuf arrive pas à choper son mouchoir, j'aurais peut-être passé l'éponge, quoi, mais dans le train.
Dans votre spectacle à l'Apollo Théâtre, Denis Maréchal, vous donnez aussi des conseils pour expliquer aux gens comment il faut faire pour rompre.
Ah oui, alors ça, parce que vous connaissez, hein, y a toujours ce moment délicat où c'est toujours douloureux, hein, qu'on soit le largueur ou le largué. Et puis c'est aussi le moment des phrases qu'on déteste entendre. Évidemment, vous les connaissez par cœur. On a le fameux.
Je préfère qu'on reste amis.
Exactement. Ah bah voilà, vous êtes une pro, voilà.
Tu es une fille formidable, mais je ne suis pas l'homme qu'il te faut.
Ah mais vous les connaissez.
C'est pas moi, c'est toi.
Ouais.
Non, c'est pas toi, c'est moi. Ouais.
Qu'est-ce que tu dirais, Ben H, pour rompre, toi?
Oh, ça va, c'est vrai, ça va de « je préfère ta sœur » à « écoute, ouais, ça va rien ».
Moi, une fois, j'ai dit « j'ai plus de sous, madame, faut que j'y aille ».
D'accord, je vais remettre l'énoncé au tableau. Il s'agit quand même de flatter l'autre, donc c'est plutôt « oui, t'es trop bien pour moi, je ne te mérite pas, j'ai peur de te faire du mal, je ne sais plus où j'en suis, j'ai besoin de me retrouver ».
Il me faut du temps.
Il me faut du temps, très, très bien vu. Et bien sûr, le non moins fameux « t'aimerais ça, toi, que je te mette des trucs dans les fesses ?» Bien sûr. C'est pas un classique? Enfin,
non,
je trouve ça douloureux.
Chacun ses petits goûts, monsieur Maréchal.
Les ruptures, hein, bien sûr.
Et vous faites comment pour rompre, vous, Denis Maréchal?
Ben, en général, je suis extrêmement lâche, donc je fais en sorte que ce soit l'autre qui me quitte, évidemment.
Ah, vous faites tout pour être quitté, en fait?
Ouais, c'est horrible, hein. Non, c'est pas vrai. Non, en plus, non, c'est les quelques fois où c'est arrivé, je l'ai fait vraiment. Non, je l'ai fait de manière courageuse.
Élégante, par SMS?
Ouais, même où j'ai envoyé quelqu'un lui dire, enfin. Comme j'avais plus de forfait.
Notre invité aujourd'hui est un artisan des mots, un raconteur d'histoires, un virtuose de la littérature, lauréat du prix Goncourt en 1987. C'est aussi un philosophe, un poète, un pédagogue, un peintre. Il est le chant du multiculturalisme. Il est de ceux qui changent le monde, élèvent le débat, donnent à chacun l'envie d'être meilleur. Et le public ne s'y trompe pas, car il est aujourd'hui l'auteur francophone le plus traduit dans le monde. Tahar Ben Jelloul nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin.
Wow. La classe.
J'ai plus rien à dire.
Ça vous plaît cette présentation, Tahar Ben Jelloul?
C'est trop.
C'est trop?
Ah ouais.
Mais attendez, on va...
Si je pouvais changer le monde, oulala.
Vous essayez de changer le monde?
Oui, j'essaie un petit peu. Non, mais il ne faut pas être pessimiste. Disons que j'essaie un petit peu de... Ce que je fais de quoi de mieux, c'est que lorsque je vais dans les écoles parler aux enfants, parce que finalement, c'est là où il faut semer les graines, c'est pas avec les adultes.
Les adultes, c'est trop tard.
Oui, on ne change pas. Alors, ce qui est extraordinaire, je fais ça depuis très longtemps, il m'arrive aujourd'hui dans des dédicaces de voir une jeune femme de 30 ans, il me dit... Vous êtes venu dans ma classe quand j'avais 12 ans. Oh là là, c'est extraordinaire.
Bah c'est bien, il y a une continuité. Alors là, vous venez, Tahar Ben Jelloul, de parler de votre livre Insomnie, l'histoire d'un homme qui, pour dormir, est obligé de tuer.
C'est pas mal, non?
Oui. Il faut qu'il tue quelqu'un, il gagne des crédits de sommeil, c'est ça?
Ben oui, il y a des points, crédit sommeil qu'il gagne. Enfin, il a découvert ça lorsqu'il a tué sa mère. C'est pas mal. Il a commencé par tuer ce qui est le plus proche de lui. C'est sa mère qui était malade. Enfin, il l'a aidé à partir. Parce que c'est un livre aussi sur aider les gens à s'en aller quand ils souffrent.
Alors, vous dites que, Tahar Benjelloun, que vous avez du mal à dormir depuis l'armée quand vous avez été emprisonné à l'âge très jeune.
C'était un traumatisme. C'est vrai. C'était une séquelle de cette période il y a 50 ans quand même.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 19 ans.
Vous avez été emprisonné 19 mois.
19 mois, et ça a été surtout dans des conditions de punition.
Maroc,
on était punis. Ouais. Ce n'était pas uniquement un séjour en prison.
C'est presque un camp de rééducation. Presque.
Voilà, de redressement pour...
Ouais. Parce que vous aviez manifesté pacifiquement.
Oui, c'était après une manifestation en mars 65, il y a très longtemps de ça. Et c'est vrai qu'une des séquelles, ça a été l'insomnie, parce qu'on nous a mis dans... On était 94, on nous a mis dans une chambrée qui pouvait contenir 15 personnes, 20 personnes. On était les uns sur les autres, quoi, dans des lits superposés. Et puis cette promiscuité a fait que je n'arrivais pas à dormir. Et depuis, c'est... Bon.
Depuis, vous n'arrivez plus à dormir.
Oui, mais ça dépend. Il y a des moments où je dors quand même. Mais j'essaie de ne pas utiliser les somnifères parce que c'est très mauvais pour la santé, pour la mémoire et tout ça.
Et vous dites aussi que vous avez pensé beaucoup pendant cette période-là à une femme que vous aimiez et elle vous a abandonné.
Oui, bien sûr, mais ça c'est normal.
Vous étiez avec elle avant, c'est ça ?
C'est ça. Ouais. On s'était fiancés et puis j'étais arrêté le lendemain.
Le lendemain des fiançailles ?
Quelques jours après. Et elle m'a pas attendu et elle est partie avec quelqu'un d'autre.
Et quand vous êtes revenu ?
Ben, c'est la vie, c'est ça.
Et elle n'a pas regretté quand même ?
J'en sais rien. J'ai jamais discuté avec elle. D'ailleurs, mes enfants me demandent encore aujourd'hui, est-ce que tu t'es expliqué avec cette femme ? Je dis non, je ne suis pas expliqué. Elle est partie, ça y est.
Vous ne l'avez jamais revue ?
Si, j'ai revu, mais bon, comme ça, très superficiellement, très de loin.
Et vous saviez au départ que vous seriez emprisonné 19 mois ? Vous ne saviez pas combien de temps ça allait
durer ? Non, on ne savait pas. C'est ça. Ça faisait partie un petit peu de la maltraitance et de ne pas nous dire si un jour on allait être libéré.
Ça vous a quand même marqué toute votre vie, cette expérience-là.
Petit à petit, oui, quand même. Ça. Mais de toute façon, ça fait de moi un écrivain. C'est pas mal.
Vous n'auriez pas été un écrivain sans ça ?
Je pense que ce que disait Jean Genet, derrière chaque œuvre, il y a un drame. Je pense que c'est mon drame qui m'a aidé à devenir écrivain.
Qu'est-ce qu'il a dit votre éditeur quand vous avez amené ce livre ? Parce que c'est très différent de ce que vous avez écrit jusqu'ici. Il s'est dit, il est devenu fou.
Non, il m'a dit, mais c'est bien toi qui l'as écrit. Parce que c'est vrai que c'est mon premier livre drôle. Enfin,
c'est une fable fantaisiste et philosophique.
Oui, et puis très, très comique, on rigole et tout ça. J'ai fait une lecture une fois, pendant que je l'écrivais, devant une cinquantaine de personnes. Et les gens riaient beaucoup. Alors je me dis, je ne savais pas que j'avais écrit un livre drôle. Alors que c'est quand même un zigou des gens dedans. Ouais. Mais c'est un nouveau genre.
C'est un peu comme Dexter. Vous connaissez Dexter, ce personnage de série télé qui tue des tueurs en série ?
Oui, j'ai vu ça il y a longtemps. Oui,
mais finalement, on s'attache à lui, alors que c'est un tueur aussi.
Mais mon personnage est sympathique, c'est
ouais,
ça le
c'est
problème. Ça. En écrivant, j'arrivais pas à le rendre méchant ou antipathique.
Tahar Benjelloun, vous dites que vous ne croyez pas à l'inspiration, mais au travail. Vous pouvez expliquer ça à mes chroniqueurs ?
Je crois beaucoup à la transpiration, comme disait quelqu'un. Non, l'inspiration, ça, rien ne descend du ciel, ni du plafond. Il faut travailler, il faut bosser. Ben, je dis ça aux enfants, par exemple, quand je vais les voir à l'école, ils disent, l'inspiration, ça n'existe pas. Hein. Enfin, on est attiré par un sujet, par une idée, par une image, et puis on essaie de creuser, de travailler un peu plus, mais c'est le travail.
Tahar Benjelloun, vous avez écrit combien de livres ?
J'ai pas compté. Beaucoup. Mais j'écris des petits livres, j'écris pas des gros.
Il y a au moins
trucs.
Une cinquantaine d'ouvrages. Hein.
Une cinquantaine, oui, mais il y a plein de petits trucs.
Non,
les romans, j'ai dû en écrire une vingtaine. Romans, vraiment. Oui, une vingtaine.
Vous êtes fier de cette œuvre ?
Non, j'ai fait mon travail, et puis c'est le lecteur et le temps qui va décider un jour. Si ça a une importance ou pas. Il faut pas non plus. Non, il faut pas. Quand on est fier de soi, ça veut dire qu'on a réussi, qu'on est arrivé. Oh, on n'est arrivé nulle part. Vous-même, vous travaillez tout le temps. Je vous vois tout le temps en train de travailler, de
mais
chercher les mots.
Mais t'es arrivé nulle part.
Non, vous continuez. Parce que si quelqu'un qui est fier, il s'arrête. Ça y est, j'ai tout fait maintenant. Je me croise les bras. Non.
À un moment, vous êtes parti vivre à Tanger, Tahar Benjelloun, et vous êtes revenu en France.
Oui, on a essayé un petit peu avec ma femme, les enfants, de vivre un peu au Maroc. Ça a été très dur. Ça a été très difficile de se réadapter. Et l'islamisme commençait un peu à menacer, à arriver, donc on n'était pas tranquille. Alors on est reparti après 4 ans.
Il y a un livre aussi qui a été très marquant, c'est « Le racisme expliqué à ma fille », ça a été un succès
Ça, c'est un livre qui a été... J'ai fait plusieurs versions. Dernièrement, j'ai fait une dernière version qui fait 20 ans après l'avoir écrit.
C'est vendu à combien d'exemplaires, ce livre ?
Dans le monde, on est à près de 3 millions d'exemplaires, parce qu'il a été traduit dans une quarantaine de langues.
Comment vous expliquez le succès de ce livre, « Le racisme expliqué à ma fille » 3 millions d'exemplaires dans le monde.
Je pense que j'ai beaucoup travaillé pour y arriver, parce que j'ai été très objectif et j'ai fait poser à ma fille, à l'époque, les questions que tous les gosses du monde pourraient se poser. Et je n'ai pas apporté de jugement. J'ai expliqué le mécanisme. Et je suis très fier d'une chose, j'expliquais déjà il y a 20 ans que le mot race ne devrait pas exister, parce que c'est la base même du racisme, parce qu'ils disent tu es de race noire, tu es de race blanche, etc. Et l'année dernière, je crois, l'Assemblée nationale a décrété la fin, ils ont enlevé le mot race de la Constitution. Parce qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Elle est immense, elle est extraordinaire, mais chez les animaux, chez les plantes, il y a d'infinies races. Et les racistes tiennent à ce qu'il y ait des races, à ce qu'il y ait des hiérarchies. Alors la nature nous a créés différents, mais la société fait de ces différents des inégalités.
Vous pensez, Tarmed Jeloul, qu'un enfant qui lit le racisme expliqué à ma fille ne va pas être raciste ?
En tout cas... Il y a des chances, s'il est bien, si on lui explique bien les choses, il y a des chances qu'il ne développe pas de préjugés. Et puis, tout dépend aussi des parents. Alors, un jour, un enfant m'a dit « Monsieur, quand est-ce que vous allez écrire le racisme expliqué aux parents ?»
C'est pas mal.
J'ai dit « Oui, mais c'est à toi de le faire. »
Alors, vous ne savez pas, Tahar Ben Jeloul, si vous êtes né en 1944 ou 47, votre père aurait trafiqué votre état civil ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que, d'abord, j'étais à l'école coranique. Et à l'école coranique, un jour, le maître d'école m'avait frappé avec un bâton et ça m'a fait très mal. Et mon père a dit, plus jamais l'école coranique. Et il me dit, tu vas rejoindre l'école de ton frère, mon frère qui a 2 ans de plus que moi. Mais pour rentrer à l'école franco-marocaine à l'époque... bilingue, français et arabe, il fallait me vieillir. Et à l'époque, on n'avait pas d'état civil au Maroc.
Donc il vous a vieilli.
Il m'a vieilli de 2 ans et demi à peu près. Bon, donc, je suis né le 15 décembre 1947, mais sur mon passeport, sur ma carte d'identité, je suis né en décembre 1944.
Vous ne pouvez pas le changer maintenant.
Non, mais bon, de toute façon...
Du coup, vous avez touché la retraite avant tout le monde.
Alors, je donne un scoop extraordinaire, que vous ne savez pas, les écrivains n'ont pas de retraite.
Ah bon ?
Nous cotisons énormément, mais nous n'avons pas de retraite.
Mais comment ça ?
J'ai demandé à tous les ministres du ministère de la Culture, ils m'ont dit, oh oui, on va traiter le problème... n'a jamais été traité. Alors, il y a tous les écrivains que vous connaissez n'en reçoivent rien.
C'est pour ça qu'ils écrivent très longtemps.
Dormir sans ouais. À continuer jusqu'au bout.
Ben H a fait votre portrait, Tahar Ben Jeloul.
Oui, hier soir, alors que je fumais la pipe au coin du feu en terminant pour la énième fois un grand classique de Tolstoï, et on dira ce qu'on voudra, hein, Guerre et paix, 1572 passe, c'est très très bon, mais c'est trop trop court. Et alors que je choisissais quelle œuvre de la Pléiade j'allais débuter pour me détendre, mon téléphone sonne, Anne Roumanoff à l'appareil. Et avec tout le respect que je vous dois, chère et brillante patronne, passer de Tolstoï à Roumanoff sans palier de décompression intellectuellement, faut être souple. Anne Roumanoff me dit, demain nous recevons Tahar Ben Jeloul, tu veux lui dire quelque chose ? Je lui ai répondu, mais Anne, c'est Monsieur Ben Jeloul, on ne lui dit rien, Monsieur Ben Jeloul, on le lit, on l'écoute. Et me voilà, ce midi, face à vous, à vous écouter après vous avoir lu, et finalement à aussi devoir vous parler, parce que comme m'a dit tendrement Anne avant de raccrocher, c'est pour ça que je te paye. Tahar Ben Jeloul, vous l'avez compris, je suis ravi de vous rencontrer, un amoureux de la littérature rencontre un autre amoureux de la littérature. On pourrait ensemble, j'en suis sûr, disserter sur Carlos Fuentes ou Garcia Marquez, deux de nos auteurs préférés pendant des heures, mais j'ai peur qu'on perde mes camarades Léa Landau et Jean-Philippe Bizini. Hein, vous, Tahar, vous avez le Goncourt, eux, ils sont cons tout court. À
Alors,
oh là là.
Alors tâchons de rester accessible, Talar Benjelloun, si vous le voulez bien. En effet, homme de culture et de philosophie, homme de savoir et de sagesse, à la prose subtile et franche à la fois, un homme du monde à l'inspiration féconde, et là je ne parle que de moi. C'est vous dire la hauteur, le niveau de cette rencontre ce midi avec vous, Talar Benjelloun. Aujourd'hui, vous avez dépassé le stade de l'écrivain, même du poète, vous êtes un sage. En cette période où règne le tweet complotiste, il est bon de lire par exemple vos témoignages sur le Maroc de vos 20 ans, le Maroc de l'arbitraire, de la répression, de la police d'État et du contrôle total des médias. Une époque sans gilets jaunes néanmoins, où le grand débat national se faisait en chuchotant dans les geôles des prisons. Parce que derrière une œuvre, et très souvent dans la vôtre, il y a un parcours en filigrane, une vie et le témoignage d'un homme du siècle, au regard pertinent et curieux sur un monde à deux visages. L'Orient d'un côté, l'Occident de l'autre, d'un côté des yeux bandés, de l'autre des yeux aveugles, deux côtés à qui vous rendez un peu plus la vue, ouvrage après ouvrage. Talar Benjelloun, vous êtes au monde ce que le trait d'union serait à deux bouts de phrase qui ensemble formeraient un fabuleux poème. Pour toutes ces raisons et pour mille et une autres, c'était un honneur de vous parler, monsieur Benjelloun.
Ouais, merci beaucoup. Wow. Et...
Vous avez fait une chronique littéraire au monde pendant 20 ans.
Ah, pendant longtemps. J'ai commencé à travailler au monde en 73 jusqu'au l'an 2000 à peu près.
Et là, vous avez lu des tonnes de livres du coup.
Oui, mais là, maintenant, je lis plus qu'avant, parce que pour le Goncourt, je lis...
Vous êtes dans l'Académie Goncourt, oui.
Oui, je lis entre 30 et 40 romans l'été. Hein, on n'a pas de vacances, nous.
Mais vous avez le temps, du coup, pour le water polo, le beach volley, tout ça?
Rien d'autre. Non, mais les gens ne savent pas qu'on travaille énormément dans l'Académie Goncourt. On est bénévole d'abord et on est sous tant de livres. On doit les lire, on lit le maximum. Quand vous avez comme président Bernard Pivot, qui est un lecteur, alors là, il y avale les livres comme des cacahuètes. Et donc, on ne peut pas ne pas lire. Mais quand on discute, on a intérêt à avoir lu. Donc, on lit beaucoup.
Et c'est intéressant aussi pour votre travail de lire, enfin, je veux dire. Ou alors, au contraire, des fois, vous...
Non, c'est un temps qui est pris sur l'écriture, mais en même temps, on rend service aux autres. Parfois, il y a des découvertes formidables. Et en même temps, on a une idée de ce que c'est que la littérature contemporaine française d'aujourd'hui. Parce qu'on a finalement...
un échantillon de tout ce qui s'est fait mieux.
Pas mal.
Ça vous arrive de ne pas aller au bout d'un livre que vous n'aimez pas?
Ah oui, bien sûr. Ah ouais. Bien sûr, parce que au bout de 50 pages, si je n'accroche pas, je me dis, bon, c'est pas la peine. Ouais. Je donne une chance jusqu'à 50 pages. Après, bon...
Bon, il faut que j'en écrive un qui fasse juste 50 pages.
Non, vous commencez à la 52e page.
D'accord.
Alors, il y a une rencontre qui a été marquante pour vous, Talar Benjelloun, avec Jean Genet.
Ah oui,
vous avez eu un échange, il vous a appelé un jour.
Ah oui, c'était extraordinaire. C'est lui qui m'appelle, il me dit, je suis
Jean Genet. Vous avez quel âge quand il vous appelle?
Ah, je devais avoir 27 ans, 26
D'accord,
ans.
D'accord, donc le téléphone sonne, Jean Genet au téléphone.
J'étais à la cité universitaire, j'étais encore étudiant, et on m'appelle, il me dit, le téléphone pour vous, alors je descends. Il me dit, voilà, c'est Jean Genet, c'est parce que vous me connaissez, moi je vous ai lu, et j'aime beaucoup vous rencontrer. J'aimerais vous rencontrer. C'était extraordinaire, le monde à l'envers. Il me donne rendez-vous dans un restaurant près de la gare du Nord et je me trompe, je vais à la gare de Lyon. Enfin bref, et j'ai passé 10 ans avec ce monsieur extraordinaire, une amitié très difficile, très, très compliquée.
Et vous dites qu'il avait un caractère spécial.
Très spécial.
Et ça vous a apporté ce compagnonnage avec Jean Genet, Talar Benjelloun?
J'ai appris beaucoup de choses, d'abord de ne pas se prendre... pour un écrivain important, de ne pas avoir la grosse tête, d'être modeste, d'être courageux. Il m'a appris beaucoup de choses. Mais sans le dire, comme ça, je voyais comment il vivait. Et on ne parlait jamais, par exemple, de ses livres. Il me dit « Ah, laisse tomber, c'est pas important, et tout ça. » Son homosexualité, par exemple, un jour, il me dit « Tu sais, je suis homosexuel comme j'ai les yeux bleus. » Et ça, j'ai appris. C'est une définition extraordinaire, ça. Quand vous dites « J'utilise encore aujourd'hui », je dis, bon, il est homosexuel comme il a les yeux bleus, c'est-à-dire il est comme ça, un point, c'est tout. On n'a pas à discuter, on n'a pas à juger, etc. Et c'était définitif. Et le premier jour, enfin, quelques jours après, en ce moment, il me dit, toi, t'as pas l'air d'aimer les hommes. Je dis, non. Il me dit, très bien. La chose était réglée.
Talar Benjelloun, vous dites que dans la vie, vous dormez très mal depuis votre emprisonnement quand vous étiez jeune. Et le jour de la mort de votre mère, vous avez dormi d'une manière très paisible.
Eh bien, tout le livre vient de là. Vraiment, parce que je me suis...
Vous avez soigné votre mère pendant 3 ans.
Oui, je m'étais occupé d'elle.
Qui était malade.
Je dis, oui, ben, je l'ai accompagné jusqu'au bout, mais le jour de sa mort, je n'étais pas présent. Je suis arrivé avec quelques heures de
retard.
Vous
aviez donc un alibi.
Oui, j'arrive et puis, alors, il s'est passé, alors je me dis, je prends avec moi des médicaments, je ne veux pas dormir, tout ça. Et en fait, j'arrive, j'entre dans sa chambre et je l'embrasse et j'embrasse quelque chose qui... Un morceau de fer glacial, quelque chose qui m'a... J'ai eu un moment de recul comme ça. Et puis j'ai compris qu'elle n'était plus là. Et que ce n'était plus ma mère. C'était quelqu'un d'autre. C'était une chose. Mais j'avais ce sentiment de délivrance. Et j'ai dormi profondément. Et c'est en pensant à ce geste que j'ai eu, ce baiser glacial et cette espèce de...
D'apaisement
que j'ai eu l'idée de... D'ailleurs, la première phrase du livre, il dit les choses très bien.
J'ai tué ma mère, un oreiller sur le visage, j'ai appuyé un peu, elle n'a même pas gigoté, elle a cessé de respirer, c'est tout. Ensuite, j'ai dormi longtemps, profondément.
C'est clair.
On précise que le livre est drôle, mais...
Ouais. C'est vrai, ça.
Au moins, c'est un début choc. On rentre dedans, on est saisi au trip quand on lit ça.
Oui, oui.
Léa Landau a des questions à vous poser, Tahar Benjelloun.
Oui, Tahar Benjelloun, bonjour. Alors, vous êtes donc ici pour votre livre L'insomnie. Et étant moi-même une grande insomniaque, j'ai décidé de vous faire une interview à dormir debout. Donc, pour quelqu'un qui a fait des études de philosophie puis de psycho, on devrait s'en sortir. Est-ce que deux insomniaques qui discutent ensemble, ça annule l'insomnie parce qu'ils pourraient céder à son dormir.
Ce serait pas mal.
Ce serait pas mal.
S'ils s'aiment, ils pourraient faire l'amour. Parce que faire l'amour, c'est une façon de lutter contre l'insomnie, mais il faut qu'ils s'aiment.
Ouais, c'est ça.
Qu'ils s'aiment.
Ouais, ou sinon, on force l'autre un petit peu, mais bon. Vous savez que je suis alors tellement insomniaque, moi, qu'à la campagne, c'est moi qui réveille les chouettes dès qu'elles piquent du bec, je leur jette des cailloux pour continuer à avoir une présence. Et est-ce que lire ses propres livres pourrait aider à s'endormir, puisque vous connaissez la fin, il n'y a plus de suspense?
Non, ça va. Oui, ça pourrait m'endormir. Je faisais ça avec les livres d'Alain Robbe-Grillet que je raconte dans le livre, et je lui racontais à Robbe-Grillet que je lisais ces livres pour m'endormir.
C'est vrai.
Il m'a dit c'est très efficace. Très bien.
Et vous avez remarqué, Tahar Benjelloun, que quand on est pris d'insomnie aujourd'hui, on ne peut plus appeler personne. Qui va répondre à 3h du matin? Personne. Parce que le drame, c'est que tout le monde éteint son portable aujourd'hui. Au moins, avec les fixes, on pouvait réveiller qui on voulait.
Non, moi j'avais un ami qui me dit tu peux m'appeler à 3h du matin, je dormirai pas. Bon, j'ai jamais fait parce que j'ai certainement qu'il dort. La seule fois où je vais l'appeler, il sera en train de dormir. Non, mais il faut. Non, il faut pas appeler les gens. Ça, c'est pas bien.
C'est pas bien. Ah, bah, du coup, moi, quand je suis insomniaque, je me lève et j'écris. C'est ce que vous faites aussi, Tahar Benjelloun?
Non. Moi, j'ai des insomnies sèches, c'est-à-dire sans aucune production.
Ah oui? Donc la nuit ne vous inspire pas du tout?
Non, pas du tout. Je fais du rangement, je fais la vaisselle parfois quand il n'a pas été fait. Je ramasse mes trucs.
Bah, appelez-moi alors à 3h du matin, je vous invite à la maison.
Avec plaisir.
Vos livres ne sont pas juste des romans, mais des témoins d'une époque. C'est ce que vous dites.
Bah oui, être écrivain, c'est être témoin de son époque. Victor Hugo, c'est ce qu'il a fait. Il nous a parlé de son siècle d'une façon extraordinaire. Et c'est ça ce qui reste d'un écrivain.
Est-ce que vous avez un dernier mot ou conseil pour tous les insomniaques qui nous écoutent?
Ben, il faut faire de l'insomnie une amie et non pas un ennemi. Il faut arriver petit à petit à l'amadouer sur ce qu'elle fout le camp.
Sinon, bon, j'ai un conseil. Appelez Anne Romanoff, elle a tellement de choses à raconter qu'à un moment donné, on peut finir par s'endormir.
Ah, la bonne
invitée qui vient de nous rejoindre, Laura Lone, qui est actuellement en tournée avec Le Diable est une gentille petite fille, coécrit et mise en scène par Jérémy Ferrari, 20, 21, 22, 23 décembre à La Cigale, à Paris, avec déjà 2 dates qui sont complètes. Vous avez 127 dates de tournée, dont 54 qui sont déjà complètes, Laura Lone?
Oui, vous venez de me l'apprendre, c'est formidable.
Comment ça se fait, ce succès incroyable?
Je ne sais pas, je ne me l'explique pas.
C'est vrai?
Non, mais c'est trop bien. C'est vrai qu'en ce moment, ça se passe vraiment super bien. Il y a de plus en plus de dates, de plus en plus de monde. C'est top.
C'est depuis que vous avez gagné la France un incroyable talent en 2017.
Oui, ça a donné vraiment un bon coup d'accélérateur là. C'est vrai que ça commençait déjà à marcher avant l'émission télé. Et puis là, vraiment, ça a permis de me faire connaître auprès d'un public beaucoup plus large et ça a vraiment lancé le truc.
Alors, 3 mois avant un incroyable talent, vous dites, je vais participer à un incroyable talent, je vais chanter, je vais jouer de la guitare.
Ouais, c'est vrai que comme on a que 2 minutes et je me suis dit, faire un sketch en 2 minutes, c'est un peu casse-gueule. Et une chanson, c'est chouette parce que ça permet vraiment d'amener un univers de façon assez rapide, assez efficace.
Il y a un contraste toujours entre votre physique,
que vous avez un physique de blonde, jolie, douce, gentille.
C'est la jalousie. La jalousie.
et ce que vous racontez, en fait, qui est très trash, très violent, en fait.
C'est vrai que j'ai cet humour-là dans la vie de tous les jours, avec mes amis, ma famille. C'est... Pour moi, c'est pas trash, quoi.
Et aujourd'hui, on peut se permettre vraiment l'humour noir? C'est une question qu'on pose beaucoup, donc vous êtes la bonne personne pour y répondre.
Faut demander à Mickaël, ça.
Hein. L'humour noir, ouais, ouais. Depuis longtemps.
Alors, l'humour noir, Laura Lone?
Mais moi, je pense que oui, en fait. C'est vrai qu'on me demande souvent, on me dit souvent, avant, au temps des proches, Coluche, on pouvait dire plus de choses qu'aujourd'hui. Mais j'ai pas l'impression, moi j'ai l'impression qu'à l'époque, eux aussi se sont fait virer d'émission, et pour eux aussi, c'était pas facile d'imposer cet humour-là. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours pas facile, mais voilà, il faut... Il y a un public pour ça, en fait. Les gens comprennent le second degré, et les gens aiment bien cet humour, donc je pense que oui, c'est possible.
Mais ça arrivait plusieurs fois, vous, qu'on vous vire d'émissions de radio ou de télé parce que vous étiez trop trash?
Oui, ça arrivait plusieurs fois, ouais. À la radio, à la télé aussi, on me dit...
On vous fait répéter, et en fait, après, on vient vous voir en vous disant...
Ouais, c'est ça. Je me suis même fait virer vraiment 5 minutes avant le début d'un tournage d'une émission de télé.
On vous a dit quoi?
J'ai répété sur le plateau, et l'équipe avait déjà vu mon texte, donc ils avaient validé, mais en régie, il y avait le directeur de chaîne, etc., qui, eux, n'avaient pas vu mon texte. Et donc, juste après ma répétition, ils m'ont convoqué dans leur bureau, et ils m'ont dit, bon, bah, c'est pas possible, on va t'appeler un taxi, tu vas rentrer chez toi. Je sais que...
Ça fait déjà un taxi gratos, ça.
C'était pas la première fois, et je sais que c'est un humour qui est pas facile à imposer, donc je sais que ça peut arriver, tant pis, moi je continue dans cet humour-là, et je crois en ce que je fais, donc...
Vous avez été prof, Laura Lone ?
Oui, tout à fait.
Ça a été compliqué ?
Oui, en fait, oui et non, parce que j'en garde quand même un bon souvenir, mais c'est vrai qu'au début, ça a été un peu compliqué. C'est vrai qu'avec les élèves, par moments, j'avoue, j'ai même été jusqu'à penser au suicide. Un jour, j'ai acheté une grande quantité de somnifères, je leur ai distribué, je leur ai dit que ce monde n'était pas fait pour eux.
Et là, qu'est-ce qui s'est passé?
Et du coup, je me suis fait virer.
Ensuite, vous avez quitté la Belgique?
C'est ça, alors ouais. Donc, je suis venue à Paris, puis j'ai commencé, je voulais me lancer dans le théâtre, donc j'ai commencé à faire plein de castings pour jouer dans des pièces. Mais bon, là, malheureusement, ils n'ont pas trouvé que j'étais une bonne comédienne. Enfin, non, le directeur du casting a dit « bonne, oui, comédienne, non ». Voilà, mais il a dit, bon, ça peut s'arranger, si tu veux, on va boire un verre et on en discute.
Alors, vous êtes allé dans un café?
Alors, on est allé dans un café, on s'est assis, il a dit, qu'est-ce que tu vas prendre? J'ai dit, un jus d'orange. Il a dit, c'était pas une question. Bon, mais du coup, j'ai rien lu.
Et là, il vous a dit quelque chose?
Oui, alors, il m'a dit, je vais dire une chose très très importante. Il m'a dit, dans ce métier, il faut coucher si tu veux avoir une chance de réussir. Enfin, pour certaines. Alors, je dis, non, mais ça, je sais. Puis parfois, il faut réussir pour avoir une chance de coucher. Enfin, pour certains.
La, l'angélique Laura Lone, qui est une vraie garce, en fait.
Je prends ça pour un compliment.
Et alors maintenant, les gens savent que vous avez cette... Maintenant que vous êtes connue, les gens savent que vous n'êtes pas si gentille que ça? Ou alors vous dites que dans la vie, vous êtes très gentille?
Oui, dans la vie, je suis vraiment très très gentille. Non, c'est vrai, je suis très très gentille, très bienveillante et tout, ouais.
Mais vous défoulez sur scène, en fait.
C'est cet humour qui me plaît. Et moi, j'avais surtout envie de monter sur scène avec des propos, avec des choses à dénoncer. Donc voilà, après, on peut voir de la méchanceté. Mais pour moi, vraiment, il y a des messages et il y a des choses que je dénonce. Et c'est ça aussi,
Vous êtes belge, est-ce que ça compte? Est-ce que c'est important pour vous ou c'est anodin?
Quand je suis en France, on m'appelle la Belge. Et quand je suis en Belgique, on m'appelle la Française.
Vous n'avez pas du tout d'accent belge, par contre?
Parfois, on me dit un petit peu sur certaines intonations. Mais c'est en général, quand je connais de mieux en mieux les personnes, mon accent ressort de plus en plus.
Donc, quand vous êtes détendu avec un homme, vous faites « alors là ».
Allez, dis, c'était bien une fois. Hein.
Et alors, c'est vrai que pour l'instant, les gens se bousculent. Vous jouez pas encore dans les Zéniths, mais...
Non, alors c'est vrai que bon, finalement, aller voir un spectacle, ben, c'est un peu comme faire l'amour. Quand il y a une grosse queue à l'entrée, ça veut pas forcément dire que ça va être bien.
Laura Lone, on écoute maintenant un extrait de votre spectacle. C'est un extrait du spectacle, c'est une
chanson? Pas du tout, c'est une petite chanson que j'ai préparée pour vous. Voilà.
Oh là là. Je ne suis pas très rassurée. On écoute Laura Lone.
Vous êtes une radio géniale, vos émissions ont tout pour plaire. Quand je vous écoute, je me régale, vos animateurs sont super. Vous savez, je suis humoriste et je cherche une place en radio pour me faire connaître du public, remplir les théâtres les plus gros. Vos audiences sont exceptionnelles, un vrai symbole de qualité. Alors je vous lance un appel, si jamais vous m'entendez. offrant Saint-Terre, embauchez-moi. Bosser chez vous, ce serait super. Europe 1, c'est trop tôt pour moi. Je suis pas humoriste en fin de carrière. J'accepterai même Radio Larzac, Skyrock ou Radio Vinci Park. Mais sortez-moi de là, je vous en prie. Je peux pas piffer ce compte Visini.
Toujours sur moi en plus, hein. Quelle belle chanson.
On arrive en
ce matin. Ah, y a un deuxième couplet en plus. Ça me suffisait là, on pouvait s'arrêter là.
En arrivant ce matin déjà, Christine Bérou m'a dit, barre-toi, dès qu'on reçoit une meuf en studio, Benache essaie de se la pécho. Mais Man m'a dit, ces chroniqueurs, ils sont vraiment tous à chier, je les programme pour que les auditeurs préfèrent me voir moi en tournée. Puis elle m'a dit, le titre au moins, je l'ai bien choisi, je dois reconnaître, parce que c'est vrai que ça fait du bien, putain, surtout quand ça s'arrête. RTL, sortez-moi d'ici. Quand je vois les auditeurs, j'avoue que je pensais pas que ce serait possible. Mais ils sont encore plus vieux que chez vous. Il y a 50 fois le nom de la radio écrit sur les murs en couleur. On croirait que c'est pour la déco, mais tout le public a Alzheimer.
C'était mieux celui-là, j'ai préféré le deuxième couplet, moi.
Europe, c'est les seuls qui ont appelé Plan B une de leurs émissions. Au moins, ils savent que c'est la chaîne qu'on met quand on capte pas les autres stations.
Bravo! Merci.
Eh bien, nous avons la direction qui est derrière la vitre, Laura Lone. Mais bon, c'est diffusé, c'est diffusé. Laura Lone, merci d'être passée nous voir.